Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour vous servir dans Okapi Service, le magazine de la vie quotidienne. Comment lutter contre les hépatites virales? On en parle aujourd'hui dans cette émission avec Dr Pascal Tchamala, coordonnateur du projet RDC Tokolonga Hépatite. Dr Pascal Tchamala, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. On vous retrouve dans quelques instants. Des questions et préoccupations, appelez au 081-890-63-94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez également vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service. Comment promouvoir la création des corps des sapeurs-pompiers en RDC? Ce sera le deuxième thème de cette émission à partir de 11h05. Heure de Kinshasa, dans Okapi Service. Et Dieu de Nyangasa assure la mise en onde. Tati Mapuku est à la coordination et à la réalisation de cette émission qui est présente jeudi dernier en Kachama. Bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute.
Grande interview reçoit le professeur Néhémy Mouilagna. L'ancien directeur de cabinet du président honoraire Joseph Kabila s'exprime sur son dernier ouvrage intitulé « La République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, devoir de mémoire ». Quel bilan dresse-t-il des 18 ans de Joseph Kabila au pouvoir? Quelle analyse fait-il de la gouvernance de Félix-Antoine Tshisekedi? Joseph Kabila sera-t-il candidat à la présidentielle de 2023? Le professeur Néhémy Mouilagna répond à toutes ces questions dans grande interview à suivre samedi 21 et dimanche 22 mai à 10h05, heure de Kinshasa.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver dans cette émission Okapi Service. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui des hépatites. Les hépatites virales sont des infections peu connues par une majeure partie de la population. On estime à environ 720 millions de personnes infectées dans le monde, avec près de 7 millions de Congolais touchés chaque année par cette maladie et par ces maladies sur l'ensemble du territoire national. Et d'après nos sources, les hépatites virales sont à la base de plusieurs décès dans les hôpitaux à travers la République. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi? D'abord, on va découvrir qu'est-ce qu'on entend par hépatite, comment ces maladies se manifestent, quels sont les symptômes, les traitements, comment s'est fait la prévention. Eh bien, notre invité nous en dira davantage tout à l'heure. Nous accueillons encore Dr Pascal Tchamala, coordonnateur du projet RDC Tokolonga Hépatite. Dr Pascal Tchamala, qu'est-ce qu'on entend par... C'est quoi les hépatites virales?
Les hépatites virales sont des maladies caractérisées par une inflammation du foie. Cette inflammation ayant à son origine des virus. C'est ainsi qu'on appelle hépatite virale. Donc, une inflammation du foie provoquée par les virus. Mmh. Les virus, il y en a plusieurs. Il y en a 5, virus d'hépatite A, virus hépatite B, virus hépatite C, virus d'hépatite D et virus d'hépatite E. Et donc, dans ces 5 types de virus, d'hépatite, il y a 2 qui sont vraiment très, très méchants et c'est à partir de ça dont on va parler aujourd'hui. Mmh. Ce sont les hépatites B et les hépatites C.
Alors, vous parlez du foie. C'est quoi le foie et quel est le rôle que joue cet organe dans le corps humain?
Le foie, c'est un organe, comme vous avez dit, parmi le plus gros, si pas le plus gros de notre corps. Il est situé à la partie droite de notre corps, dans cette partie qu'on appelle juste en dessous des poumons, cette partie qu'on appelle le hypochondre droit. Et donc, c'est un organe très, très important, au point que lorsqu'il est en insuffisance, c'est-à-dire qu'il ne sait plus remplir ses fonctions, on va assister à plusieurs types de troubles qui vont malheureusement progressivement amener vers la mort.
Et justement, quelles sont les fonctions que joue le foie dans le corps humain?
Bon, entre autres, le foie va jouer des fonctions du genre réguler le sucre. Le sucre, vous savez que c'est une source d'énergie dont on a besoin. Vous avez par exemple les personnes qui restent plusieurs jours à jeun sans pouvoir manger. Mmh. Eh ben, parce que ils ont le foie en bonne santé, ces gens vont puiser dans leurs réserves au niveau du foie des matières qu'ils vont utiliser pour avoir du sucre dans leur sang à un niveau tout à fait satisfaisant et qui leur permet de tenir le coup.
Donc le foie fait une sorte de stockage, aussi on peut le dire ainsi.
Oui, ben en fait, il n'est pas le stockage. Lui, il va transformer la graisse, par exemple, que nous avons au niveau des gens qui ont de l'embonpoint, etc. Mm-hmm. La graisse, c'est par exemple de l'énergie stockée qu'on n'a pas utilisée. Mm-hmm. Eh ben, cette énergie stockée qu'on n'a pas utilisée va pouvoir être utilisée chez des gens qui sont à jeun, qui ne mangent pas, etc. Et donc, lorsque le foie est insuffisant, par exemple, ces gens n'ont plus de sucre dans leur corps. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ces gens vont tomber en hypoglycémie, ils vont faire des comas et on ne les sucre pas, ils vont mourir. Un autre rôle, c'est par exemple de sécréter de l'albumine. L'albumine, ce sont des protéines. Les protéines, ce sont des éléments dont on a besoin pour fabriquer des anticorps, pour se défendre contre les infections, etc., etc. Alors, les gens qui n'ont pas, qui ont une maladie du foie, une insuffisance rénale, plutôt hépatique, vont pouvoir, ils vont voir leur taux d'albumine très bas dans le sang. Et parce que ce taux est très bas dans le sang, ces personnes sont exposées à beaucoup de risques, notamment d'infections. Ils vont voir leur corps gonflé. Ils vont faire de l'eau dans le ventre, qu'on appelle ascite, de l'eau dans les jambes, qu'on appelle des œdèmes, et ainsi de suite. Et ils seront très, très susceptibles à développer tout un tas d'infections. Et les gens vont aussi, ceux qui ont fait une insuffisance rénale, ils vont avoir des troubles de coagulation du sang. Et donc, si vous n'avez pas la capacité de garder le sang qui peut se coaguler, vous allez saigner de partout. Et bon, quand vous n'avez pas de sang, vous n'avez pas les transports d'oxygène. Si vous n'avez pas d'oxygène, vous ne savez pas offrir l'oxygène aux cellules, eh ben, vous allez malheureusement évoluer vers la mort. Mmh. Le foie aussi va se transformer en cirrhose. Le foie va pouvoir se transformer en cancer. Alors, cirrhose, cancer, insuffisance hépatique.
On dit souvent cirrhose de foie, ça attaque souvent les gens qui prennent trop d'alcool, ils finissent par développer cela.
Ça c'est vrai parce que il n'y a pas que les virus qui vont attaquer le foie, il y a aussi certains poisons, certains toxiques comme l'alcool. L'alcool est un poison pour le foie, il va progressivement effectivement créer une cirrhose et cette cirrhose peut dégénérer en cancer.
Bien, donc nous comprenons que le foie est un organe très important au niveau du corps humain et s'il il fait des inflammations, c'est à ce moment-là qu'on parle des hépatites virales. Alors, quelles sont les causes de ces hépatites virales, docteur?
Ben, les causes des hépatites virales, c'est surtout les virus. Comme j'ai dit, il y en a 5, mais les plus importantes, c'est le virus B et le virus C. Enfin, les plus importantes, c'est pour dire que ce sont des virus qui vont provoquer ce qu'on a appelé une pandémie des hépatites dans le monde. C'est les virus B et C.
Oui. Et comment ils arrivent à attaquer le foie? Est-ce que c'est à cause du mode de vie? Est-ce qu'il y a des facteurs favorisants?
Donc le mode de contamination, vous voulez dire, eh ben c'est les personnes qui vont être contaminées par les virus B et C ou autres virus. Ce sont des personnes qui sont entrées en contact avec un sang contaminé, par exemple. Moi, je suis malade, je fais de l'anémie, donc je manque de sang dans mon corps. Mmh. On va devoir me transfuser, me mettre du sang dans le corps. Alors, on va me mettre le sang dans le corps, je vais guérir parce que mon anémie va être compensée par la transfusion. Mmh. Mais malheureusement, si ce sang qu'on m'a donné n'est pas un sang intact, c'est-à-dire que ce sang est contaminé par un virus B ou C, eh ben je vais être exposé à faire la maladie si mon état immunitaire n'est pas assez fort pour rejeter le virus, qu'il soit virus B ou qu'il soit virus C. Une autre façon, c'est que si on m'opère, comme on le fait souvent malheureusement avec des bistouris qui ont été juste mis dans l'alcool pour être
Stérilisés.
Non stérilisés, même mal stérilisés surtout, parce que souvent on dit qu'on a stérilisé, mais c'est très mal stérilisé.
Oui.
Alors ces bistouris-là, s'il est infecté, s'il est souillé par le virus de l'hépatite B ou des virus de l'hépatite C, à ce moment-là, en me coupant, en m'ouvrant le ventre, par exemple, eh ben, vous allez me transmettre le virus. Et une fois de plus, si je n'ai pas une immunité suffisante, je vais attraper la maladie. Mmh. Il y a aussi le sexe. Il y a aussi les sexes. En fait, puisque les gens savent très bien ce qui se passe avec le sida, le virus de l'hépatite B et du virus de l'hépatite C s'est transmis aussi par voie sexuelle aussi. Aussi, pas exclusivement, mais aussi par voie sexuelle. Mmh. Il y a aussi des petits actes.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie aussi sexuellement transmissible?
C'est une maladie sexuellement transmissible, surtout la B. Et la C va se transmettre, d'après les données de la littérature, chez des gens qui sont en train de se droguer avec des drogues qu'on...
Les seringues, etc.
Ils s'échangent des seringues et parmi ces genres de personnes, il y en a toujours qui font des hépatites B ou C. Eh ben, en échangeant les seringues, ces gens vont pouvoir se transmettre, surtout le virus de l'hépatite C. Mais chez nous ici, je n'ai pas souvenir qu'il y a beaucoup de gens qui font ce genre de pratiques. On va voir, parce que nous avons vu aussi, dans les premiers tests que nous avons faits, qu'il y a aussi une proportion importante des gens qui font des hépatites C. Mmh.
Bien, donc ce sont là les modes de contamination. Il y en a d'autres ou c'est...
Bon, il y en a d'autres. Par exemple, lorsque vous faites la circoncision des enfants à la nationale, si je peux dire, avec des lames de rasoir qui n'ont pas été tout à fait désinfectées, ces lames de rasoir, le fait de faire la circoncision à l'enfant de cette façon-là, ça va créer les risques élevés de le faire exposer devant les hépatites. Alors, il y a les mamans qui sont positives et qui sont enceintes, ces mamans font courir à leur bébé le risque d'être contaminé par le virus, d'être contaminé par le virus de l'hépatite B et ou l'hépatite C. Il y a aussi l'hygiène hospitalière. Si dans les hôpitaux on ne respecte pas les gestes principaux d'hygiène hospitalière, par exemple désinfecter les outils comme par exemple les ciseaux, si les ciseaux qu'on utilise pour couper le cordon ombilical ne sont pas stériles, on va faire courir aux enfants le risque d'attraper la maladie et ainsi de suite. Si l'agent, le professionnel de santé qui fait accoucher la maman, elle n'a pas respecté les gestes d'hygiène, elle va aussi non seulement être victime, mais elle peut aussi, cette personne, transmettre la maladie aux uns et aux autres.
Bien, voilà, ce sont là les mots des contaminations des hépatites virales. On va poursuivre tout à l'heure avec notre invité, docteur Tchamala, Pascal Tchamala. On va accueillir les auditeurs. Vous voulez participer à cette émission, vous avez des questions, des préoccupations, appelez au 081 890 63 94.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Bien, nous parlons aujourd'hui dans Capi Service des hépatites virales. Comment lutter contre cela. Platini Mbombo, vous êtes en Bandaka, Justin nous appelle des Magui et Safari depuis Iga Barrière. Platini, bonjour.
Je dis bonjour, je salue le docteur.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, j'ai bien suivi le docteur comme il a dit, à part avec la thématique du jour. Alors je mets des petites questions que je vais poser à l'invité. Surtout en cette maladie, moi je voudrais savoir l'âge à quand quelqu'un peut attraper cette maladie et à quel âge on peut attraper cette maladie. Et aussi, une chose que je veux demander à l'invité, s'il peut nous expliquer la femme qui est enceinte, si on arrive que cette femme est touchée de cette maladie, quels sont les médicaments appropriés pour qu'ils puissent prendre pour que cette maladie puisse se terminer un peu. Et aussi, pour chiquer, je voudrais savoir. C'est toujours la maman qui est enceinte, mais au niveau des accouchements, ça peut aussi poser un sérieux problème avec la femme qui est à l'intérieur. Voilà un peu ce que je voulais avoir la précision autour de ça, je dis.
Merci. Justin de Magui, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. J'appelle depuis Magui. Bonjour à l'invité.
Bonjour.
Alors, j'ai trois petites questions à poser à notre invité, au docteur. Je voudrais savoir la différence entre cirrhose du foie et hépatite virale et hépatite de suite. Ça, c'est la première question. La deuxième question. Le foie a-t-il une fonction d'hématopoïse? Comment ça se passe? Troisième question. Comment le foie peut participer à une hémorragie qui se produit à n'importe quel organe du corps? Voilà toutes les trois petites questions.
Merci. Safari, depuis Gabarrière à Nitouri. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Et bonjour aussi à monsieur Lévité. J'ai quelques questions pour monsieur Lévité. La première question est de savoir est-ce que l'hépatite choisit l'âge. Ouais, pour savoir est-ce que les enfants, les jeunes, les vieux, tous peuvent être atteints de la maladie. Et puis, deuxième question. La maladie, c'est une question non soignée, elle peut arriver à tuer la personne, dira combien de temps. Ah oui. Pour finir, j'avais appris que quelqu'un avait connu des signes sa foi était trouée, sa foi avait connu des trous, des pervers, des trous. Alors, est-ce que c'était à cause de l'hépatite ou bien autre maladie? Moi, je ne sais pas, mais est-ce que M. Lévité peut m'éclaircir quant à ce sujet-là? Sinon, bonne journée.
Merci, Safari. Docteur Tchamala, à vous la parole.
Merci. Alors, on a demandé quels sont les âges qui sont les plus concernés par les hépatites. Ça, c'est Platini qui a demandé ça, je pense. Eh ben, je dirais que la pyramide des âges se trouve comme ceci. Elle est très large à la base, donc beaucoup plus de jeunes sont infectés et plus on avance en âge, moins on court des risques d'attraper la maladie. Et donc la maladie est surtout et concerne surtout les enfants à la naissance, dans certains gestes que nous faisons de transfuser les enfants, surtout chez les enfants drépanocytaires, etc. On leur fait courir des risques d'attraper la maladie. Et chez la maman qui est enceinte et qui est positive pour le virus de l'hépatite B et ou C, eh ben cette maman va faire courir à l'enfant qui va naître les risques d'être contaminé lorsque l'enfant passe à travers le processus de l'accouchement, lorsqu'il passe la filière vaginale, l'enfant peut se blesser et être ainsi contaminé. C'est pour cela d'ailleurs que depuis un certain temps, peut-être 4-5 ans, si pas plus, que systématiquement dans certaines régions, je sais que ce genre de choses malheureusement n'arrivent pas dans toutes les régions de notre pays, mais en tout cas ici dans la capitale, dans certaines communes, systématiquement, le PEV a mis en place un calendrier vaccinal qui aussi fait en sorte que l'hépatite virale soit traitée, donc qu'on puisse donner aux enfants des vaccins qui contiennent des substances qui vont exciter leur organisme et faire ainsi qu'ils sont protégés contre le virus de l'hépatite. Mmh. Alors, la femme enceinte qui a l'hépatite, peut-elle être traitée? Oui, absolument. Il existe des traitements qui sont sur le marché, malheureusement fort chers. C'est ainsi que on conseille, par exemple, avant de se marier, par exemple, on conseille à la maman qui entre dans ses examens avant d'accoucher, etc., de se faire dépister. Parce que si elle est positive pour l'hépatite B, les médicaments existent. Si elle n'est pas positive pour l'hépatite B, on peut la vacciner. Si elle est positive pour l'hépatite C, les médicaments existent. Malheureusement, il n'y a pas encore de vaccin, mais en tout cas, on va lui donner des conseils pour qu'elle puisse éviter. Donc, enceinte ou pas, on peut traiter la femme enceinte. Est-ce qu'elle va avoir, c'est toujours le même auditeur, est-ce qu'elle va avoir des problèmes dans sa grossesse parce que elle a l'hépatite? J'ai dit non, l'hépatite ne va pas perturber l'évolution
normale de sa grossesse.
C'est ça, effectivement, mais il va menacer de faire en sorte que son enfant risque d'être contaminé.
Quelle est la Docteur, avant de répondre aux autres questions, oui? Quels sont les symptômes de quelqu'un qui a les hépatites qui souffre des hépatites?
Alors, là, il y a deux formes d'hépatite. Il y a la forme aiguë. La forme aiguë va se manifester par une température à long cours. C'est une température en plateau qui ne cède pas. Elle est là, présente pendant plusieurs semaines, voire mois. Et à un certain moment, il va apparaître un ictère. Donc, les yeux vont devenir jaunes. Et enfin, il y aura la troisième phase, c'est la phase fatigue extrême. Une fatigue très très importante et cette fatigue va rester très longtemps. Ça, c'est la phase aiguë. Mais la phase chronique, c'est-à-dire après avoir fait l'aigu, ça va se transformer progressivement en phase chronique. Donc, la maladie va demeurer dans l'organisme pendant très 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 longtemps. Alors, celle-là, c'est une phase silencieuse et qui tue. Et donc, tu ne sais pas que tu as la maladie. Et puis, voilà qu'à un certain âge, à certaines périodes, tu deviens jaune, tu commences à devenir faible, tu commences à saigner, etc. Et ben voilà, ça, c'est la phase chronique. Elle est silencieuse, mais elle finit par amener la mort. Et c'est pour cela qu'il est important. Vraiment, il est important de pouvoir se faire dépister. Dans le monde, il y a 400 millions de personnes qui sont atteintes. Et sur ces 400 millions de personnes qui sont atteintes, il n'y a que 5% qui connaissent leur statut. Mais c'est dangereux. Et donc, il y a 399 millions de personnes qui sont ignorantes et qui se promènent avec une bombe. Parce que
Quand les yeux deviennent jaunes, là, ça veut dire, c'est ça qu'on appelle jaunisse?
Oui, c'est ça qu'on appelle jaunisse. Nous l'appelons ictère.
Ictère,
c'est ça. Voilà.
Ça veut dire quand les yeux jaunissent, ça veut dire que la maladie est assez avancée.
C'est-à-dire, c'est un des signes des maladies. de la maladie, c'est provoqué par exemple par ce qu'on appelle une cytolyse qui va faire éclater les globules rouges, etc. Bon, c'est la bile en fait. Ce qu'on voit les conjonctives, c'est la bile qui s'est échappée de son circuit normal et qui va colorier les yeux en jaune. Et puis vient la fatigue, très très important.
Ça c'est et la fièvre en plateau.
La fièvre en plateau, ça c'est un des premiers signes et qui ne baisse pas.
Bien. Avant de répondre aux autres auditeurs, il y en a d'autres, on va les accueillir. Nous avons Pierrot de Lubumbashi, Samuel Béa de Kinshasa et Rédi de Chikapa. Pierrot, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour docteur, c'est Pierron Pagnan.
Bonjour.
Je suis à Lubumbashi. Okay. Avant de vous poser mes quatre questions, cher docteur, j'aimerais que vous puissiez aussi prendre le stylo, hein, parce que ce sont des questions que j'adresse pour un malade.
C'est fait, moi,
Le stylo et papier, tout est déjà prêt, allez-y rapidement.
Merci. Je vous dis, je vous présente un malade. Moi, je suis un professionnel de santé. J'ai un malade, c'est un étudiant. Il a commencé, selon les antécédents, c'est quelqu'un qui a déjà été vacciné dès son enfance. Pour entrer dans une bibliothèque de la place, on lui demandait de donner soit une poche de sang, soit de payer. Savez-nous, actuellement, il n'y a pas les moyens pour faire tout ça. Lui, c'était d'abord de donner une poche de sang pour fréquenter la bibliothèque. Lorsqu'il commence à faire ça, et on lui a prélevé deux fois le sang. Donc, on a prélevé le sang en l'espace d'une année. Alors, l'année prochaine, lorsqu'il va encore, il a trouvé un cas maintenant dans la famille où il fallait donner le sang. Ils avaient le même groupe. Lorsqu'on entre au laboratoire pour prélever le sang, on lui dit que non, il y a l'hépatite B. Au moment où lui, il était très bien, il a déjà donné deux poches de sang. Alors, il était un peu bouleversé parce qu'il n'est pas. On ne pouvait pas le faire comprendre. Or, c'est là où on prélevait ces échantillons-là. C'est là qu'on trouve que dans son sang, il y a déjà l'hépatite. Il se demande comment ça peut arriver. Je ne suis ni alcoolique. Je ne suis pas marié. Je suis encore étudiant. Je peux avoir ça comment? C'est dans des savons de coiffure? Point d'interrogation. Alors, moi, présentement, avant de poser ces questions-là, j'aimerais savoir d'abord si vous avez une structure spécialisée pour ce genre de cas. Comment pouvez-vous faire qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette structure soit éparpillée dans toute la République, vu que ce malade, quand il a présenté quelques douleurs au niveau de la fosse de l'hypochondre droit, on a pris en charge. Il y a eu aussi
Pierrot, les autres attendent. Il faut passer directement aux questions parce que les autres attendent. Ils sont nombreux. Allez-y rapidement. Quelles sont les questions rapidement?
La question était d'abord de savoir si ils ont le médicament coûte cher.
D'accord.
Comment ils peuvent rendre ce médicament aussi moins cher ou prendre gratuitement ce genre de maladie? Est-ce qu'ils
rapidement, la question suivante.
Demander un appui
la question suivante.
Pour faire un traitement. La première question que je voulais poser, je dis, s'il vous plaît, pourquoi lorsqu'on consomme beaucoup de paracétamol, on est exposé à faire une hépatite? Docteur, veillez et décidez aussi la physiopathologie dans ce cas.
Merci.
La deuxième question était de savoir, une hépatite chronique ne répond pas au traitement. Pourquoi? Parce que vous avez dit qu'il y a un traitement pour les hépatites B. Or, comment l'hépatite chronique ne parvient pas à répondre au traitement? Troisième question était de savoir, combien de temps quelqu'un qui a l'hépatite B peut vivre et cette hépatite peut être guéri avec un traitement donné dans une structure spécialisée.
Merci.
Et pour vous citer, oui, y a-t-il un rapport entre hépatite virale et Covid? Je vous remercie.
Merci Pierrot. Samuel Béa de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, Daniel Kachama et bonjour Alain.
Quelle est votre question?
Ah oui. Avant de poser la question, je voulais un peu compléter le docteur pour dire que non, en dehors des fonctions autres que le docteur a citées, nous avons aussi les foyers considérés comme un laboratoire biochimique de l'organisme. Donc tout ce que nous prenons comme les produits pharmaceutiques, quand ça entre dans l'organisme, ce n'est pas de cette forme-là que ça va traiter l'organisme. Ça doit d'abord passer par les foies pour être transformé, afin qu'il soit utilisé par l'organisme. Mmh. Oui. Mes deux questions sont les suivantes. La première est celle de savoir, est-ce qu'il y a la différence qui existe entre hépatite, donc j'ai dit seulement, je n'ai pas dit hépatite virale, hépatite tout court avec hépatomégalie. Donc hépatite et hépatomégalie. La deuxième question, devant un drépanocytaire, on observe aussi à l'augmentation du volume des foies. Et aussi devant la personne qui souffre l'hépatite, okay, virale, il y a aussi l'augmentation du foie. Maintenant, comment est-ce que cette augmentation se diffère devant des maladies? Devant la drépanocytose, on assiste aussi à l'augmentation du volume des foies. Et devant l'hépatite virale, il y a aussi l'augmentation. Mais comment est-ce qu'on peut différencier ces deux formes d'augmentation? J'ai dit.
Merci Samuel. Reddy, vous êtes à Chikapa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama.
Quelle est votre question, Reddy?
Ok. Je voulais savoir quelles sont normalement les causes qui favorisent beaucoup plus ce genre de maladies qui mettent à genoux nos populations. Parce que ce sont des choses que nous sommes en train de vivre chaque jour ici à Chikapa. C'était ça ma question.
Merci Reddy de Chikapa, merci pour toutes ces questions. Docteur Pascal Chamala, à vous la parole.
Merci. Bon, je vais revenir sur les questions qui m'ont été posées avant, mais bon, je réponds à celle-ci. Donc, la personne qui a été vaccinée et qui s'est retrouvée à la troisième, au troisième don de sang, on a refusé qu'il donne le sang parce qu'il était virus positif alors qu'il s'était fait vacciner. Il y a eu certainement, je ne sais pas quel vaccin il a pris. Il y a eu simplement le fait qu'on n'a pas contrôlé si, suite au vaccin, il avait développé des anticorps ou pas. Manifestement, il n'a pas développé des anticorps parce que il aurait été exposé à la maladie qui ne serait pas devenu positif. Et donc, c'est ce que j'ai dit, beaucoup de gens, 5% seulement, savent, connaissent leur séropositivité. Les gens ne savent pas souvent dans quelles conditions ils attrapent ces maladies. Et ces conditions où on attrape les maladies sont des conditions de tous les jours. C'est vrai qu'il n'a pas eu des relations, c'est vrai qu'il n'y a pas ceci et cela. Mmh. Il a certainement utiliser quelque chose qui était contaminé et c'est quelque chose est entré en contact avec son sang qui était normal avant et qui s'est infecté. Et
donc, est-ce qu'on peut dire que c'était lors du prélèvement, lorsqu'on a, parce qu'avant d'entrer à la bibliothèque, il devait soit donner de l'argent ou du sang.
C'est ça.
Est-ce qu'on peut dire que lors du prélèvement, on a utilisé des ustensiles
non désinfectés.
Désinfectés.
C'est possible. C'est possible parce que c'est le seul facteur de risque qu'il a couru et les vaccins qu'il a eu, c'était pas un vaccin qui malheureusement ne l'a pas protégé. Bon, est-ce qu'il y a des structures de prise en charge? Oui, dans tous les hôpitaux, en principe, on doit faire la prise en charge des hépatites. Les hépatites, non seulement c'est une pandémie, mais aussi, malheureusement, dans notre pays, c'est une pathologie, comme on dit, négligée, comme la fièvre, plutôt comme la maladie du sommeil, par exemple. Ce sont des maladies négligé. La différence est que l'hépatite, c'est vraiment une pandémie. Et si dans un pays comme le nôtre, on dit que ça doit être classé dans les maladies négligées, c'est vraiment pas bien. Et c'est pour cela que nous sommes en train de lutter pour que, au niveau du pays, on puisse réveiller, parce qu'il existe un programme national de lutte contre les hépatites en général, pas seulement B et C. On vient au mois de décembre de réveiller le programme national, plutôt le plan stratégique national d'éradication des hépatites B d'ici 2030. Donc, des choses sont en train de se mettre en place. Et nous, dans notre groupe RDC Tokolonga Hépatite, nous avons comme mission de descendre dans les 500 zones de santé de la République pour que on puisse faire en sorte que le paquet minimum d'activité puisse comprendre aussi le dépistage systématique des hépatites et au niveau du paquet complémentaire faire en sorte que on puisse faire des dépistages, qu'on puisse faire la prise en charge des cas simples des hépatites virales. Alors, est-ce qu'il y a des médicaments? Oui, les médicaments existent, mais c'est vrai que les médicaments coûtent cher. Alors, nous sommes en train de chercher les moyens de faire en sorte que nous puissions nous prendre en charge. Parce que
donc, le traitement des hépatites n'est pas accessible à tout le monde. Hein?
Il n'est pas accessible à tout le monde parce qu'il coûte relativement cher. Parce surtout pour celui de l'hépatite, d'hépatite C, pour 3 mois de traitement, ça te coûte minimum $1,050. Alors que pour l'hépatite B, ça te coûte quand même 70 dollars par flacon et tu dois prendre ça presque pendant toute ta vie. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça. Alors, comme nous sommes habitués à attendre que l'ONU fasse, que l'OMS dise, etc., etc., on est en train d'attendre. Mais nous devons nous prendre en charge et nous sommes en train de chercher, d'imaginer comment on peut le faire. En attendant, le gouvernement a promis de mettre en place la couverture sanitaire universelle. Et on espère que cela va être étendu aussi aux hépatites, mais ne peut l'être que si ils ont des données sur les hépatites. Or, un des défauts que nous avons, c'est de n'avoir pas les données.
Bien, et quelqu'un, Safari a posé la question de savoir si les hépatites peuvent tuer après combien de temps de maladie.
Oh là là, l'hépatite aiguë peut tuer en moins d'une semaine. Hein. Si tu fais une hépatite aiguë fulminante, tu peux effectivement détruire, comme a dit l'autre, le laboratoire de détoxication des médicaments et des toxiques. Eh ben, tu peux mourir en quelques jours hein, quand tu es atteint d'une insuffisance hépatique aiguë. Alors, pour ce qui est de la chronique, ben, ça prend beaucoup de temps. Par exemple, il y a un enfant qui a reçu sa transfusion de son père à l'âge de 3 ans. Il est mort à 30 ans, alors qu'il allait devenir médecin. Et donc, les durées varient, mais malheureusement, l'évolution sans traitement évolue toujours vers la mort.
Quelqu'un a demandé tout à l'heure pourquoi même dans les cas il y a augmentation du foie pour les drépanocytaires, etc.
Bon, il y a les mécanismes sont différents. Ça m'étonne qu'il demande parce que lui, il sait que ceci est un laboratoire de cela. Et donc, la façon, il y a le système réticulo-endothélial qui est en commun entre le foie et entre la rate. Alors, chez les drépanocytaires, ce système est très sollicité parce que les anémies, la destruction des globules rouges, etc., etc. Alors, plus on travaille, plus le foie prend du volume. Et donc, le foie et la chose prend le volume. Alors que dans les hépatites, par exemple, on va assister à une désorganisation du réseau vasculaire intrahépatique. Qu'est-ce qui va se passer? Le foie va avoir des difficultés, il va se développer ce qu'on appelle une hypertension portale avec une augmentation du foie et une désorganisation de la circulation sanguine intrahépatique qui va provoquer, parce qu'il a posé les questions, où est-ce qu'il y a la relation avec le sang, etc., qui va provoquer ce qu'on appelle de l'hypertension portale, qui va provoquer les varices œsophagènes, par exemple. Ces varices peuvent éclater et la
docteur, tout ça c'est technique, hein. Nous, on comprend.
C'est ça,
rien.
Mais c'est ça. Des questions qui ont été posées sont oui. très techniques.
Ça c'est hein. pas technique.
Alors bon, oui, oui. il faut bien qu'on réponde, mais c'est vrai que
bon,
il y a une relation avec vomissement du sang.
Oui.
Et comme j'ai dit, lorsque quelqu'un fait une insuffisance hépatique, il va avoir des troubles de coagulation sanguine qui peuvent saigner.
D'accord, on va accueillir d'autres auditeurs. Maurice Degbadolité, Papi et Albumbashi, Evelyne nous appelle de Kananga.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Kapi Service.
Bien, nous parlons des hépatites aujourd'hui, hépatite virale, avec Dr Pascal Tchamala, coordonnateur du projet RDC Tokolonga Hépatite. Trois auditeurs en ligne, Maurice Degbadolité, Papi de Lumbashi, Evelyne de Kananga. Alors, en tout cas, soyez bref. Maurice Degbadolité, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour Pierrot et bonjour à notre invité. Merci pour la parole.
Bonjour.
J'ai quelques préoccupations par rapport au sujet du jour. Concernant l'hépatite, toujours. J'ai deux membres de famille qui sont partis dans des circonstances pareilles liées à l'hépatite. Je voudrais un peu savoir, est-ce que cette maladie est bien héréditaire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que il y a un agent causal de cette maladie virale? Et quels en sont les moyens de prévention? Et aussi, est-ce qu'on peut guérir de l'hépatite C ou B, tout consort? Et aussi, à l'invité, est-ce qu'il y a une tranche d'âge pendant laquelle cette maladie se manifeste? Voilà quelques questions que j'avais. Merci beaucoup, Pielo, LMJ, Angie, Loabon.
C'est jeudi. Vous avez pas cette confusion-là. C'est jeudi, Kachava. Vous mélangez LMJ, JR Loabon. C'est jeudi qui est à l'antenne. Merci. On va accueillir Papi de Lumbashi. Bonjour, Papi. Quelle est votre question?
Bonjour, monsieur Jeudi. Bonjour à l'invité.
Merci.
On vous écoute.
Je ne sais pas si je suis sûr, si je ne sais pas si je vois des questions de la santé. Je viens de vous capter en cours de route. Je voudrais parler de la cirrhose des foies. J'ai des questions.
Non, nous, on parle aujourd'hui des hépatites virales. Okay, vous avez une question par rapport aux hépatites virales?
Ah non, j'avais la question pour la cirrhose des foies. J'ai cru que c'est le sujet que vous parlez. Parce que je viens de vous capter en cours de route.
Posez
mais
la question.
Allez-y quand même, docteur va répondre à votre préoccupation.
Non, ça va. La cirrhose des foies, parce qu'il y a un médecin qui nous a dit, ici à Lubumbashi, que la cirrhose des foies, si lorsqu'elle est confirmée, il y a quelqu'un qui a ça ici au Congo, il n'y a pas les médecins qui peuvent traiter ça. Parce que je voudrais demander, est-ce que réellement ici à la République démocratique du Congo, il n'y a pas les médecins qui peuvent traiter la cirrhose des foies?
Merci.
C'est toujours en Inde.
D'accord. Merci, Papi de Lumbashi. Madame Evelyne, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, Daniel. Bonjour à notre invité et à tous les auditeurs de la radio Papi. La question, il y a une question qui est déjà posée par l'auditeur de Lumbashi qui est intervenu bien avant nous. Néanmoins, je la repose. Est-ce que l'hépatite est héréditaire ou bien contagieuse? Des deux, et ça peut être guéri facilement chez les enfants ou chez les adultes. La maladie peut être facilement traitée chez les enfants ou chez les adultes. Je vous remets le micro.
Merci, Madame Evelyne. Docteur Pascal Tchamala, alors, je vous remets aussi le micro.
Je vais très vite. Hérédité, non. La cause, les virus, comme on a dit, il y a plusieurs sortes de virus, mais c'est surtout virus B et virus C. Comment prévenir? Je vous ai dit, c'est surtout éviter les éléments qui sont contaminés par du sang souillée, surtout c'est le contact sans par le sexe, par la transfusion, etc. Le traitement, oui, les traitements existent. Les traitements de l'hépatite B existent, les traitements de l'hépatite C existent aussi. Pour l'hépatite B, il y a le vaccin pour la prévention. Pour l'hépatite B et C, il y a une éducation sanitaire que nous devons faire pour dire aux gens ce qu'il faut pas faire pour attraper la maladie. Est-ce qu'il y a l'âge? J'ai déjà répondu. L'âge, la pyramide des âges fait que la base est plus large que le sommet. Pourquoi? Pour dire que les enfants et les jeunes sont beaucoup plus exposés que les adultes. La cirrhose, oui, la cirrhose, c'est une complication des hépatites. Hein. Il y a des hépatites virales, comme celles dont on est en train de parler, mais il y a aussi les hépatites toxiques. Ainsi, la personne qui consomme trop d'alcool va faire des hépatites alcooliques, par exemple, et progressivement, il va évoluer vers une cirrhose du foie. Est-ce qu'on les traite en Inde
seulement, ou on peut les traiter ici?
On les traite ici aussi, même à Lubumbashi. Il y a des hépatogastro entérologues qui peuvent s'occuper de cela. Héréditaire, on a répondu oui, à la maman. C'est une maladie contagieuse, effectivement. Et le traitement réussit bien aussi bien chez les enfants que chez les adultes.
Bien. Alors, docteur, parlez-nous du projet RDC Tokolonga Hepatite.
RDC Tokolonga Hepatite, c'est un projet pilote du plan stratégique national de lutte contre les hépatites. Ça consiste en quoi? Il a trois axes. Il y a l'axe de sensibilisation. On a constaté que les gens ne connaissaient pas ce que c'était les hépatites. Et d'ailleurs, on vient d'entendre avec des questions qui sont posées ici qu'il y a beaucoup de confusion dans ce qu'on dit. Et donc, nous avons un axe stratégique qui est de pouvoir sensibiliser la population pour la mettre devant ses responsabilités. Il faudra pas qu'un jour, les gens disent qu'on ne savait pas comment on attrape la maladie, etc., etc. Et cet axe est là pour que nous puissions mettre en place ce qu'on appelle une cartographie de la menace des hépatites. Parce que la menace des hépatites, je vous ai dit, elle est mondiale et on a décidé que d'ici 2030, nous, les humains, nous devons éradiquer. Donc la sensibilisation est notre premier axe. Le deuxième axe, c'est la valorisation de la zone de santé. L'endroit indiqué pour lutter contre les maladies, c'est la zone de santé. Or, quand nous sommes allés dans les zones de santé pour avoir des informations préalables, on a constaté qu'il n'y a pas une rubrique réservée aux hépatites. Bon, on a mis seulement les maladies infectieuses, mais les maladies infectieuses, on n'a que ça aussi dans notre pays. Et donc, nous voulons faire en sorte que la zone de santé puisse pouvoir produire des données sur les hépatites, et pour ça, nous devons l'appuyer avec ce qu'il faut pour qu'il puisse non seulement éduquer la population, mais aussi pouvoir faire des campagnes de dépistage d'une façon systématique et fabriquer des données dont la couverture universelle aura besoin pour couvrir aussi cette maladie-là. Et enfin, le troisième axe, c'est la solidarité communautaire. On a constaté que c'est une maladie qui coûte cher, non seulement pour faire le diagnostic, mais aussi pour accéder aux soins et aux services. Alors on s'est dit, bon, plutôt que d'attendre qu'arrive, j'espère bien, la couverture sanitaire universelle, nous faisons comme les églises, nous faisons comme les pasteurs et les prêtres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis des sacs dans des choses, dans l'église, et nous venons verser, etc. Oui. Alors, nous pouvons faire la même chose avec notre seul organe financier congolais, la CADECO, caisse d'épargne. Nous pouvons constituer ce que j'appelle une épargne de groupe, une épargne entre les gens qui supportent le programme qui va nous permettre de constituer une masse critique financière et pouvoir mettre en place un financement de notre programme, mais surtout faire en sorte que, en attendant la couverture santé universelle, que nous puissions aider ceux-là qui auront besoin, parce qu'ils sont positifs, qui auront besoin d'un secours financier et qui pourraient accéder au traitement. J'ai dit 1 050 $ tout à l'heure, mais avec un système comme ça, ils peuvent avoir à 50 à 20 $. Voilà, grosso modo, ramassé, c'est que c'est RDC Tokolonga Hépatite. Ça veut dire que d'ici 2030, on aura mis en place les conditions favorables pour que notre plan stratégique national de d'éradication des hépatites puisse réussir.
Docteur, vous parlez Lingala aussi, on peut dire quelques mots en Lingala. Docteur
Pascal Tshamala. Va, soit il
voilà, tozolo bela maladie ba bengi hépatite na bitena Lingala soki ba benga ngo Tati, va bien à monter nini la Lingala.
Toko le ba pota, pota na foi.
Na foi à foi.
Oui, oui, pota. Zai le kola omoni ozali na bubon. Bubon ezalaka evimbi, ezali moto, ezali mutane. C'est ça l'inflammation. D'accord. La même chose et ça la makana foi. Ceux qui hépatite, ceux qui virus. Kanyamoyo microbe
microbe voilà.
Microbe nango écoute na kati nzoto loko la covid ba mutumoko asenga ki yaye ba point est-ce que relation ezali
entre covid na covid
covid ezali virus hépatite virus et hépatite peza virus baza bandeko
basangane
ouais baza bandeko bon tozo le ba covid tele l'autre le banane
hépatite
hépatite puisque covid bon le bango trop et donc alors Suki ozui maladi wana, surtout na bosangisi, ya makila na yo, na makilo yo, ezali na infection wana a virus. Virus yo ezali na makila yo, iba pesu yo, parce que ozali na anémie, ou bien basali yo, opération. Et kokote na nzoto na yo, virus wana kokende mbangu, kotelema na likolo ya foie. Alors, na likolo ya foie wana, ezali na deux sortes ya façon pote et la kisaki a komi. Tozali na hépatite aiguë ko la kisamana fièvre. Malheureusement, awa sokozui fièvre, bakolobeza malaria, bakolobeza fièvre ta typhoïde. Alors que, fièvre et keseni. Donc, sokoza na fièvre, mamoni koza na miswa jaune, kende mbangu, pa ya munganga, atala, soko ezali hépatite, to maladi moussous. Parce qu'effectivement, okoko zala na fièvre, na malaria, et okoko zala pe na miswa jaune. Donc, il faut kende pa ya munganga. Alors, phase wana ya aigu, donc ya lombangu, je sais pas comment on peut dire aigu, ya makasi.
Maladi comme makasi.
Maladi comme makasi. Phase wana, et koki kosila, normalement, c'est-à-dire, maladi kosila, ou ekoki okende okeko kufalibela.
Docteur Tshamala, toza sou son angonga mingi te. Alors, yé, biso, ozana, ozo kamba projet babengi RDC tokolonga hépatite. Et l'on nine sengeli tosa la po na kolonga bokonoyo.
Et sengeli boya kanaba rinyo yito salaka, et sengeli boyo kaka radio okapi, oya zo pesa bino education, et sengeli tofongola miso. Tous les kakaka te ah voilà bakoye la biso ba médicaments etc. Il faut biso moko tous salo yo vieux Kabila Lobaki prenez-vous en charge.
Prenez-vous en charge. Merci beaucoup docteur Pascal Tshamala. Totondio botondi ndenge ya kina mission na biso na mokola lelo potolobela maladie ba bengi hépatite virale. Bonne journée et à la prochaine.
Merci beaucoup. Na merci na ba oui ba.
Voilà,
ma question.
D'accord.